trois mots que je vous ai mis au tableau, index, concordance et contexte, qui font partie du vocabulaire assez général maintenant, des études avec l'ordinateur, des études de texte informatisées ou plus précisément assistées par ordinateur. Alors aujourd'hui c'est tout à fait, enfin pas tout à fait, mais presque banal, disons, d'utiliser un texte numérisé, digitalized text, et de chercher à l'intérieur de ce texte des mots, des formes, ou même simplement des lettres, hein, des parties de mots, qu'on appelle aussi des troncatures. Une troncature qui veut dire un morceau de mot, ça peut être un préfixe, un suffixe, un radical ou quelques lettres simplement, en fonction d'un besoin particulier. Bien sûr, ça a été très popularisé, rendu facile par l'utilisation de l'Internet et la possibilité d'interroger des millions de pages Internet qui ont été écrites par vous et moi, n'importe qui, ou bien des spécialistes de chaque domaine. Et lorsque l'on sélectionne une page dans laquelle il y a un texte littéraire, par exemple l'éducation sentimentale, soit par partie, chapitre, soit tout entier, comme c'est également possible, on a la possibilité d'utiliser la simple fonction de recherche, hein, qui est CTRL-F, avec le clavier et qui vous permet de chercher n'importe quelle suite de lettres. Mais ça n'est pas nouveau. Même si on utilise le web, disons, beaucoup depuis une dizaine d'années, j'ai vérifié cette semaine dans la bibliothèque universitaire, et certainement dans beaucoup de bibliothèques universitaires, on trouvera ces gros livres de la fin des années 70 qui s'appelaient des concordances et qui étaient réalisés bien sûr à partir de textes déjà numérisés ou plutôt tapés avec des secrétaires ou des gens qui tapaient à la machine des textes sur ordinateur. Vous voulez passer ? Allez-y. Et en effet, j'ai trouvé dans la bibliothèque universitaire une concordance générale de l'éducation sentimentale publiée aux États-Unis qui date de 1978. Alors 1978, oui, ça fait assez longtemps maintenant. 78. En fait, même avant que l'on utilise le web. Hein, et quand je suis arrivé au Japon, je faisais déjà des études par ordinateur, mais il n'y avait pas l'Internet. Je me connectais avec mes collègues français par la ligne téléphonique, directement d'ordinateur à ordinateur. Il n'y avait pas de réseau. Et le réseau est arrivé, au moins pour Tokyo, en 1994-95 à peu près. Et évidemment, peu de gens étaient reliés, mais en particulier, les universités ont été parmi les premiers endroits à profiter de l'ordinateur. Donc, aujourd'hui, c'est devenu très banal, dans un certain sens, mais cette banalité cache aussi, maintenant, une forme d'ignorance. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants, de jeunes gens, qui ignorent la possibilité extraordinaire qu'ils ont de faire ça. Et je le vois régulièrement à l'université avec mes étudiants, lorsqu'on leur montre la possibilité d'accéder à des textes littéraires en ligne, de les lire, si on veut, à l'écran, pourquoi pas, mais on est aussi bien avec un livre à la maison, mais avec l'ordinateur, la possibilité de chercher. Et ça les étonne beaucoup. Donc, ils ont une vingtaine d'années, ils ont déjà passé plusieurs années à l'école, et ils n'ont pas appris ça. Alors, est-ce que c'est un défaut du système scolaire ? est-ce que c'est la banalité des choses qui les rend tellement évidentes qu'on les oublie? Alors, vous aussi, faites-le, dites-le autour de vous. Cette possibilité existe, et en particulier pour des grandes œuvres comme l'éducation sentimentale et pour un très très grand nombre de textes qui sont dans le domaine public, pour lesquels il n'y a pas de droit à payer, donc il n'y a pas de problème pour la mise en ligne sur Internet, y compris par vous et moi. Vous pouvez tout à fait numériser par vous-même un texte, qu'il soit français ou japonais, qui n'a pas de droit de copyright, et le mettre sur Internet. Vous aurez toujours des lecteurs, des amateurs, qui viendront consulter ce document. Alors, parmi ces opérations qui ont eu lieu depuis plus de 20 ans autour du texte littéraire informatisé, il y a bien sûr Gallica, dont je vous ai déjà parlé souvent. Et aujourd'hui, il y a une sorte de concurrence ou de lutte, disons, internationale et même mondiale avec l'entreprise de la firme Google, qui s'appelle en français Google Livre, donc Google Books, en japonais je ne sais pas quel nom ça porte, et qui consiste à numériser des livres, avec là des problèmes vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis des droits, qui sont à négocier dans chaque pays, avec les autorités, avec les éditeurs, avec les écrivains, avec les héritiers, donc c'est très très compliqué. Alors, Gallica n'entre pas dans ce problème de Google Livre aujourd'hui, puisque Gallica ne contient que des œuvres du domaine public, donc accessibles directement, gratuitement, sans aucune illégalité. Vous pouvez consulter Gallica sans être criminel d'aucune façon. J'ai illustré aujourd'hui l'utilisation de Gallica avec la deuxième partie de la feuille ici, et cette couverture de Némésis qui correspond à une citation à la page 150. Alors, c'est pas dans la partie à étudier pour aujourd'hui, mais comme on a un peu sauté par-dessus un certain nombre de chapitres, je voulais quand même revenir là-dessus. Il s'agit de Des Lauriers, qui a beaucoup de culture politique et qui souhaite devenir une sorte de journaliste, publiciste, politique, et utiliser le journalisme pour attaquer les hommes politiques. Alors bien sûr, ça n'est pas du tout nouveau, ni aujourd'hui, évidemment, ni au moment de Des Lauriers. Et Des Lauriers s'est trouvé une sorte de modèle dans la personne de Barthélemy. Alors ce Barthélemy était exactement comme Des Lauriers l'imagine, une sorte de publiciste pamphlétaire qui écrivait de façon quasi permanente contre les politiques, les politiciens. Il a fait ça pendant un certain nombre d'années, et puis il semblerait que ce Barthélemy ait été acheté plus ou moins par des hommes au pouvoir, et pendant assez longtemps, sous Louis-Philippe et un peu après, il s'est beaucoup calmé. Donc on n'a pas très bien compris pourquoi. Mais au moins, sous Charles X, à la Restauration, il a été très 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 virulent. On dit virulent comme un virus, très très méchant contre les politiques. Et alors Flaubert cite quand même trois lignes de Barthélemy. Flaubert cite assez peu. Parfois il nomme des individus, parfois il nomme des œuvres, titres d'œuvres qui apparaissent dans le texte, mais il cite rarement des extraits de texte. Et cette fois, Flaubert nous donne trois vers de Barthélemy qu'il met bien sûr dans la bouche de Delaurier. Alors c'est quand même une citation assez importante par rapport aux habitudes de Flaubert. Et je me suis dit, tiens, il serait nécessaire de faire le point sur ce Barthélemy et sur cette citation. J'ai consulté d'autres éditions de l'éducation sentimentale, et lorsqu'il y a une note pour Barthélemy, ce qui n'est pas le cas ici, pour la Pléiade, pour une autre édition en grand format des années 1970, il y a une note. Et cette note précise simplement le titre de l'œuvre de Barthélemy, qui est Némésis. Sans donner de page, de titre de poème ou quoi que ce soit. Alors je me suis demandé si les professeurs qui ont préparé ces éditions sont vraiment allés voir dans cette œuvre Némésis. Et en effet, l'édition de la Pléiade est ancienne, l'édition en grand format que j'ai vue est des années 1970, donc on ne pouvait pas utiliser le texte électronique de Gallica pour retrouver l'œuvre de Barthélemy. Alors sans doute des chercheurs, hein, flaubertiens très, très, très passionnés, sont allés voir. Mais pour l'édition que tout le monde peut lire, il n'y a pas de référence. Alors je ne sais pas, dans l'édition japonaise, comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous a mis une note ou quelque chose ? Bon, vous me direz. Alors les trois vers qui sont cités, c'est page 150. Les trois vers qui sont cités sont donc dans le chapitre 1, oui, de la deuxième partie. Assez au début, le chapitre 1 est comme ça. On est environ à la moitié du chapitre, à peu près. Hein. Le chapitre 1 n'est pas très long. Voici ces vers. Elle reparaîtra, la terrible assemblée, dont après 40 ans, votre tête est troublée. Colosse qui, sans peur, marche d'un pas puissant. Alors, il s'agit de faire revenir une assemblée, qui doit être bien sûr une assemblée révolutionnaire. En l'occurrence, il s'agit de la Convention nationale, qui a donc une très très grande importance dans la Révolution française. Bon, je vous renvoie à vos livres d'histoire, hein, pour vérifier l'importance de cette convention. Et il n'y a donc pas, dans les autres éditions, de précision particulière. Voilà, donc dans Gallica, l'ouvrage intitulé « Némésis » se trouve disponible. Vous pouvez le regarder comme vous voulez. Je vous ai même mis l'adresse qui n'est pas très longue maintenant. Les adresses de Gallica ont été simplifiées il y a quelque temps. Alors, dans ce livre Némésis, qui fait plus de 300 pages, c'est à la page 122-123, comme numéro de page dans l'image du texte, et pour le document que nous feuilletons, dont nous tournons les pages en cliquant, hein, avec le site Gallica, c'est à la page 134-135. Ce livre est disponible uniquement sous forme d'image, c'est-à-dire que lorsque vous regardez le site de Gallica, vous cherchez ce livre, vous le trouvez, vous l'avez devant vous, ce ne sont que des images. Alors bien sûr, vos yeux peuvent lire le texte, mais l'ordinateur ne le comprend pas. Donc il n'y a pas la possibilité de chercher un mot dans ce texte. Il faut tout lire. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas tout lu, j'ai regardé les débuts de vers en cherchant elle reparaîtra. Elle reparaîtra, elle reparaîtra. Donc j'ai fait quand même plus de 100 pages avant de le trouver. Et ça va assez vite. Hein. Cet ouvrage, Némésis, est une chose assez étrange, car il s'agit d'un journal publié tous les jours pendant un an par un seul individu, donc ce Barthélemy. Il avait déjà publié des choses avant, avec un autre écrivain. Il était très connu une personne qui écrit contre les politiques tous les jours dans des journaux et qui écrit des pièces principalement en vers, en alexandrin le plus souvent. Et il a décidé de faire un journal individuel publié tous les jours. Et dans la préface de Némésis, qui est signée mystérieusement LR, je ne sais pas qui a signé cette préface. La préface qui date donc de l'édition de 38, je crois, explique bien justement ce contexte. Et Némésis signifie en fait, disons dans l'esprit de Barthélemy, la vengeance permanente, l'attaque et la vengeance contre ceux qui nous gouvernent si mal. À l'origine, Némésis est le nom d'une déesse dans la mythologie grecque. Et ce nom propre est utilisé de temps en temps comme un nom commun, exactement de la même façon qu'en français vous dites une poubelle, parce qu'il y a eu à Paris un préfet poubelle qui a commencé un jour le système de ramassage des ordures ménagères avec des boîtes, de façon systématique, ce qui est devenu très, très utile dans toutes les villes du monde. Ce phénomène s'appelle antonomase. Voilà, il s'agit d'utiliser un nom propre comme un nom commun par l'habitude que nous avons de l'utiliser. Voilà, et donc cet ouvrage nous propose tous les textes de Barthélemy publiés pendant un an. Pendant une année, il a publié tous les jours ce genre de pamphlet. Pas tous les jours, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Toutes les semaines, dans ta tête, Patrick, semaines. J'ai préparé ce matin et puis encore, je dis tous les jours. Donc, une fois par semaine, voilà, hebdomadaire. C'est déjà bien, parce qu'une fois par semaine, écrire des alexandrins comme ça, bon, je sais que l'alexandrin devient mécanique. Tous les auteurs l'ont dit, au 18e, au 19e, au 20e, lorsqu'on est habitué, on a la musique dans l'oreille, on peut parler presque normalement en alexandrin. Mais tout de même, trouver des choses intéressantes à dire et les dire correctement. Bon, voilà donc une citation un peu plus large qui s'étale au bas d'une page et au début d'une autre. C'est pour ça que le texte n'est pas aligné. Et ça vous permettra de vous rendre compte bien du contexte. Donc il s'agit bien entendu de contester la légitimité politique de ceux qui sont en place en 1831, 32, 34, 35, particulièrement 34 et 35, donc Guizot par exemple, hein, et de appeler à un retour révolutionnaire, une reprise des assemblées de type convention nationale, afin de revenir à une vraie dimension révolutionnaire qui mette au pouvoir le peuple. Pour cette raison, la citation que fait Flaubert, donc elle reparaîtra la terrible assemblée, dont après 40 ans, votre tête est troublée. Donc après 40 ans, il s'agit bien sûr de renvoyer à la Convention nationale pendant la Révolution française. Et les trois vers cités par Flaubert ont une suite. Donc ça finissait par Colosse qui sans peur marche d'un pas puissant, le front dans la tempête et les pieds dans le sang. Je trouve ça assez beau comme image. Le front dans la tempête, c'est assez hugolien, ça fait penser à Victor Hugo comme image, et les pieds dans le sang. Alors, le front dans la tempête et les pieds dans le sang, l'image est assez hugolienne, puisque la tempête est en même temps l'idée de géant, entre le haut et le bas, une grande distance, qui, n'ayant d'autre but que de sauver l'Empire, écrit sur l'échafaud « Malheur à qui conspire ». Et quand les étrangers l'appellent au tournoi, leur jette comme un gant une tête de roi. Là, on fait allusion évidemment à l'alliance des étrangers contre la France, qui vont entrer en guerre pendant la Révolution et contre la Révolution française. Et comme si l'exécution du roi Louis XVI pouvait être une sorte de réponse à un affront qui aurait été fait par les étrangers. Et donc, quand les étrangers l'appellent au tournoi, leur jette comme un gant une tête de roi. Donc, comme un gant renvoie à l'image de jeter son gant. Et jeter son gant, ça veut dire provoquer quelqu'un en duel. Se sentir offensé ou vouloir offenser quelqu'un et lui jeter son gant. Après quoi, ça sera dans le thème d'aujourd'hui, provoquer un duel et évidemment respecter les codes du duel tels qu'ils existent depuis très longtemps malgré de nombreuses interdictions des duels en France, au moins depuis Richelieu. Voilà, donc je vous invite à retrouver ce livre en ligne, ne serait-ce que pour feuilleter comme ça et voir la vigueur, la force politique de ces vers. Aujourd'hui, on se demande où sont les journalistes, les publicistes qui pourraient écrire de cette façon contre les hommes politiques. Est-ce que ça servirait d'ailleurs à quelque chose, je ne sais pas. C'est purement esthétique comme remarque. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce Némésis? En tout cas, je réponds de cette façon à une absence d'information dans notre édition et dans d'autres éditions que nous pouvons combler avec l'édition électronique. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur la semaine dernière? Parce que là, j'ai commencé d'un seul coup là, dans le vif du sujet. Bien. On garde cette page de côté puisque il y a en même temps les personnages. Aujourd'hui, je parlerai particulièrement de Sisy, évidemment, monsieur de Sisy, puisqu'il sera à l'honneur, si on peut dire, dans le passage du duel que nous étudions aujourd'hui. Mais vous pouvez voir déjà les quantités de répétition des noms. Alors, j'ai pris bien sûr les principaux noms de personnages, je n'ai pas pris les personnages qui apparaissent très très peu. Comme base de comparaison, le prénom Frédéric se trouve cité, utilisé 1037 fois par Flaubert. Le nom Arnoux, 575, donc il y a presque la moitié. Et nous savons que Arnoux concerne à la fois monsieur et madame. Donc il faudrait entrer dans les détails et chercher monsieur ou madame, mais on va tout de suite se perdre parce que les personnages ne sont pas seulement nommés par leur nom. Souvent, ils sont bien sûr, comme toujours en français, nommés par un pronom qui ne fait que rappeler leur présence récente dans le texte, donc il ou elle, ou un pronom complément d'ailleurs. Et puis, d'autres fois, les personnages sont nommés d'une autre façon. Alors, par exemple, pour Des Lauriers, on peut l'appeler aussi le clerc. Pour Rosanette, elle s'appelle en réalité Rose Annette, donc ça doit être sur son état civil, mais son nom de famille c'est Bron, B-R-O-N, quatre fois, et puis se trouve trois lignes en dessous le maréchal au féminin, qui évidemment n'est utilisé que pour Rosanette, il n'y a pas d'autre maréchal dans le livre. Donc il faut l'ajouter à Rosanette, hein, ce qui fait à Rosanette près de 180 à peu près occurrences, donc ça la rapproche beaucoup de Des Lauriers, par exemple. Donc je pondère, c'est-à-dire je relativise l'importance de ces chiffres. C'est une importance toute relative. Les personnages peuvent être nommés de bien d'autres façons par l'écrivain. Cependant, ils ont une présence en tant qu'élément sonore. Lorsque vous lisez, lorsque vous voyez le mot, c'est une sorte de marque supplémentaire qui vient s'ajouter. Et alors, je me demandais, qu'est-ce que nous avons dans l'esprit, après avoir fini le roman, est-ce que nous avons l'impression qu'il est plus souvent question d'un personnage ou d'un autre personnage? Et est-ce que la réalité de ces noms, de ces chiffres, correspond à l'image que nous avons? Alors, je ne pouvais considérer que mon impression personnelle, mais vous me direz vous aussi, j'avais l'impression, par exemple, que Hussonnet avait moins d'importance que du Sardier, par exemple. Et alors, Hussonnet a 110 occurrences. Mais ces 110 occurrences sont quand même assez concentrées, puisque vous voyez, il y en a 41 dans les chapitres 4 et 5 de la première partie. Donc là où le personnage est fortement présent, sollicité, utilisé, actif. Et puis 47 dans la deuxième partie. En revanche, Hussonnet, dans la troisième partie, a moins d'importance. Il est moins présent. Il n'y a que 22 occurrences. L'importance des Dambreuses, également, dans mon esprit, était un peu moindre. Alors, je sais que là aussi, il y a monsieur et madame, donc ça se cumule, mais j'avais pas l'impression qu'il était tellement question d'eux. Et puis, il se retrouve en troisième position. Donc c'est assez étonnant, ça aussi. Bon, voilà, donc chacun peut confronter la réalité du nombre, si je puis dire, avec son impression personnelle. Et puis alors, ça permet aussi de voir si des personnages sont parfois beaucoup plus présents dans une partie ou dans un chapitre que dans une autre. Alors, si vous utilisez le site Intratexte, dans la liste des mots, vous trouvez les noms des personnages et en cliquant dessus, vous avez la concordance, hein, justement, et vous voyez avec les références s'ils sont plus présents dans tel ou tel chapitre. C'est assez facile à voir. Par exemple, le personnage de Sisi, justement, voilà. À propos de Sisi, il y a 82 occurrences, dont 50 seulement dans le chapitre 4 de la deuxième partie, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et là, nous voyons bien l'utilité du personnage par l'importance massive de sa présence. Voilà. Alors, avant même qu'il y ait des ordinateurs, il y a eu des chercheurs qui se sont intéressés au personnel des romans, comme on disait, et qui ont étudié des ensembles de personnages, que ce soit chez Balzac, chez Flaubert ou chez d'autres écrivains. Et donc, avant même que l'ordinateur nous permette de faire ces choses assez rapidement, disons, il y a des chercheurs qui les ont faites chez eux avec des petites fiches, en notant, et ça prenait des mois ou des années. Et donc, hommage à ces chercheurs qui ont commencé ces études et qui n'ont pas démérité, bien sûr, même si aujourd'hui on peut aller mille fois plus vite. Mais est-ce que le lecteur, l'intelligence du lecteur va mille fois plus vite parce que l'ordinateur va mille fois plus vite? Ça n'est pas certain. Peut-être qu'on a besoin de lire 4 fois, 5 fois, 6 fois le roman tout entier avant de bien commencer à comprendre l'importance de tel ou tel personnage. Donc la vitesse d'accès que permet l'ordinateur peut aussi nous tromper sur l'intelligence que nous pouvons avoir, la connaissance que nous pouvons avoir du texte. Restons modestes. L'ordinateur permet beaucoup de choses, mais notre cerveau ne suit pas à la même vitesse. Ce n'est pas mon cerveau qui calcule tout ça et qui fait les conclusions. Et donc après, je me retrouve devant cette liste et voyez, j'essaye de vous donner quelques remarques personnelles, mais si je travaillais encore pendant 2 ou 3 mois simplement sur ce sujet, j'aurais certainement beaucoup plus de choses à vous dire. Donc, restons modestes et relatifs avec ces outils. Ils sont là, utilisons-les, apprenons à bien les utiliser, mais restons modestes. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, ça va aux 30 minutes, c'est bien, on va respecter un peu le timing. Les pages 274 à 288... ce sont les pages principalement du duel, la préparation, le moment où des personnes se sont assemblées, en apparence de façon amicale, et à un moment, des propos ont dégénéré, comme on dit, et ont entraîné une agression. Un personnage agresse un autre personnage et ça se conclut par la décision d'un duel. Ce n'est pas évident. On peut aujourd'hui se battre dans un restaurant ou dans un café. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver en duel demain matin sur le champ. Heureusement, sans doute. Mais ça peut exister encore aussi. Il y a d'autres formes de duel, bien sûr. Donc, il y aura plusieurs parties. Le dîner, la décision, la préparation et l'exécution du duel. Beaucoup de romanciers ont utilisé le thème du duel depuis de nombreux siècles. Et c'est, comme on dit en littérature, un topos, c'est-à-dire un lieu commun, presque une banalité dans les romans. Cependant, la littérature assez sérieuse de Flaubert ne nous a pas habitués aux aspects un peu rocambolesques, épiques, aventureux, aventuriers, qui seraient bien sûr beaucoup plus courants chez Dumas, Alexandre, ou même chez Balzac. Flaubert semble un peu plus retenu, et puis quand même, il nous met un duel. Alors, ce duel a une origine, ce que j'appellerais la genèse du duel. Comment on en arrive à un duel? Est-ce que deux personnes qui ont des relations amicales, sans nuages, sans problème, risquent réellement de se provoquer en duel, comme ça, d'un seul coup, en lançant une assiette? Ou bien, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est accumulé? Alors, je parlais de nuages, hein, donc des nuages. Avant que l'orage n'arrive, il faut que les nuages s'accumulent. Et en effet, Flaubert a bien préparé son histoire. Il a positionné son duel, et il faudra se demander pourquoi aussi. C'est-à-dire le duel lui-même, à quoi sert-il? À qui sert-il? Dans le roman ou pour les personnages? Mais bon, pour l'instant, on se pose la question de la genèse. Alors, cette genèse, elle repose entièrement dans la présentation du personnage de Sisy. Monsieur de Sisy, là, donc, on peut l'avoir à partir du site Intratexte. On regarde les occurrences de Sisy et puis on clique l'une après l'autre et on regarde les mots qui sont dans le contexte, c'est-à-dire la concordance, c'est la liste verticale des occurrences avec quatre mots avant, quatre mots après, quatre ou cinq, plus. Bon. Et puis, lorsqu'on clique sur l'occurrence, on arrive au texte, paragraphe. Et là, on a le mot dans son contexte plus largement. On peut lire le paragraphe et comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai rassemblé quelques éléments qui viennent des chapitres ou des parties précédentes. Et au chapitre 3 de la première partie, alors je ne vous donne pas la page parce qu'on l'a déjà vu un autre jour, lorsqu'on présente Sisy, on dit qu'il est, je cite, enfant de grande famille et qui semblait une demoiselle. Enfant de grande famille et qui semblait une demoiselle. Donc on affirme, enfin Flaubert pose en même temps que le nom, juste à côté, l'origine aristocratique, noble, et l'apparence physique assez féminine, donc sans doute assez maigre, peut-être des cheveux un peu longs, peut-être un visage lui-même très jeune, donc assez efféminé. Voilà une possibilité. Dans le même chapitre, un peu plus loin, on l'a vu ensemble d'ailleurs, Sisy est, lorsque Frédéric et lui sortent un peu pour se promener, pour faire des choses ensemble en ville, sortir, hein, il constate que Sisy a une intelligence des plus pauvres. Je cite, intelligence des plus pauvres. Et à la fin de ce paragraphe-là, qu'il est en fait un ego. Il a pensé que peut-être c'était un malin qui essayait de cacher une sorte de bêtise pour arriver à des fins, mais non, c'est réellement un imbécile. Alors, Flaubert dit un ego. Au chapitre 5 de la première partie, Flaubert nous explique que Sisy craint les femmes. Il a peur des femmes. Il se méfie des femmes, en général. En même temps, bien sûr, il les désire, comme on le verra après, mais il s'en méfie et il est assez peureux. Il n'a pas beaucoup de courage pour entreprendre des jeunes demoiselles. Il aimerait bien que la situation lui soit déjà préparée par quelqu'un d'autre, savoir que cette jeune femme est d'accord, et donc, voilà. Enfin, un peu difficile. Dans la deuxième partie, au chapitre 2, Sisy a encore augmenté sa fortune. Il a un crêpe noir, c'est-à-dire un tissu noir pour indiquer qu'il est en deuil de quelqu'un de sa famille, et donc sa fortune a encore augmenté. C'est le problème de l'héritage dont on parlait au premier cours. Et alors, il veut se distinguer des autres. Flaubert écrit qu'il voudrait se distinguer des autres et Flaubert cite l'expression « avoir du cachet ». Avoir du cachet, c'est avoir une apparence unique. Et là, on retrouve un thème qui est celui du dandisme. Le dandisme, évidemment, d'origine anglaise. Et donc, il sera bientôt qualifié à la page 259. Là, j'ai noté la page parce que l'expression était intéressante. À la page 259, on dit qu'il a un chic anglomane et mousquetaire. Alors, anglomane fait bien sûr directement référence à l'Angleterre et au dandisme qui vient d'Angleterre. C'est l'époque de Brummel, un beau Brummel, qui donnera son nom ensuite à des magasins en France et qui était un dandy très célèbre. 259, donc là vous avez un grand paragraphe que je vous lis. Depuis que le deuil de sa grand-mère était fini, il réalisait son idéal, parvenait à avoir du cachet. Donc au chapitre 2, hein, il voulait avoir du cachet, et maintenant il parvenait à avoir du cachet. Gilet écossais, habit court, large bouffette sur l'escarpin et carte d'entrée dans la ganse du chapeau, rien ne manquait effectivement à ce qu'il appelait lui-même son chic, un chic anglomane et mousquetaire. Il commença par se plaindre du Champ de Mars, turf exécrable, parla ensuite des courses de Chantilly et des farces qu'on y faisait, jura qu'il pouvait boire 12 verres de vin de champagne pendant les 12 coups de minuit, professa à la maréchale de parier, caressait doucement ses deux bichons, et de l'autre coude, s'appuyant sur la portière, il continuait à débiter des sottises, le pommeau de son stick dans la bouche, les jambes écartées, les reins tendus. Frédéric, à côté de lui, fumait tout en cherchant à découvrir ce que le Milord était devenu. Alors ici, le Milord, c'est une voiture à cheval. Ce n'est pas le Milord au sens de la chanson d'Edith Piaf. Hein. On pense tout de suite à celui-là. Donc c'est moi, la première fois aussi, hein, il y a longtemps, je me suis demandé, c'est ce Milord, qu'est-ce qu'il fait là, lequel, qui? Mais non, c'est une voiture dans laquelle il a vu passer quelqu'un. Alors dans ce paragraphe, il est question de ce portrait ridicule, en même temps que snob et dandy de Sisi, et en même temps il y a un ou deux indices de nature proleptique, prolepse, c'est-à-dire mis ici sans qu'on s'en rende compte, mais qui servent à autre chose plus tard. En particulier l'allusion, donc il dénigre le Champ de Mars et il préfère Chantilly. Et à propos de Chantilly, il parle des farces qu'on y faisait. Alors, faire des farces, c'est donc faire des choses amusantes, hein, s'amuser aux dépens d'une autre personne. Donc, on va piéger quelqu'un et ensuite, on va bien rigoler ensemble lorsqu'il se sera ridiculisé, lorsqu'il sera tombé par terre. Bon, ce sont les gags à la Charlie Chaplin, hein, si vous voulez, de faire des farces ou des blagues. Et puis, deuxième allusion au futur, disons, il demande à la maréchale, ouais, il proposa à la maréchale de parier. Et donc ce verbe parier, même si la maréchale, on ne sait pas si elle accepte ou n'accepte pas, peu importe, le thème du pari est introduit. Et on verra que ce thème du pari aura une importance tout à l'heure, au moment du lancement, disons, du duel. Alors, en même temps que ces informations nous donnent une image de Sisi, nous avons un peu l'impression que cette image est aussi celle de Frédéric. Nous avons l'impression que Frédéric voit Sisi de cette façon. Ce n'est pas une sorte de narrateur omniscient qui voit Sisi comme il voit Frédéric, mais bon, on a l'impression quand même que c'est un peu l'opinion de Frédéric, tout ça, tous ses propos sur Sisi. Voilà pour cette partie. À la page, à la même page 259, c'est juste après ce que j'ai lu, pardon, la cloche ayant tinté, Sisyphe s'en alla, au grand plaisir de Rosanette, qui l'ennuyait beaucoup, disait-elle. Donc Rosanette dit que Sisyphe l'ennuie beaucoup. Mais ce n'est pas la même chose que s'il n'y avait pas dans la phrase les deux derniers mots, disait-elle. Parce que s'il n'y avait pas ces deux derniers mots, disait-elle, on pourrait penser que réellement Sisyphe ennuie Rosanette. Mais le disait-elle introduit la parole de Rosanette qui dit « il m'ennuie ». Et cette parole, nous ne sommes pas sûrs, maintenant, connaissant la suite, hein, nous ne sommes pas sûrs que ce soit la vérité. Il est tout à fait possible que Rosanette mente en disant que Sisyphe l'ennuie. Nous allons voir en effet que Rosanette a joué un jeu un peu dangereux et qu'elle est en partie responsable de ce qui se passera le soir même. À la page 261, c'est ça, on est toujours dans la même scène de course, hein, de chevaux, avec la foule qu'il y a autour. Et Frédéric essaye d'apparaître comme l'amant de Rosanette. Frédéric est tout à fait déçu de ses aventures qui n'avancent pas avec Madame Arnoux et il essaye d'avoir une autre maîtresse, d'avoir une sorte d'image publique, position. Et il essaye d'apparaître comme l'amant de Rosanette. Et en même temps, nous savons que ça n'est pas la réalité. Donc il joue lui aussi un jeu ambigu en donnant cette image, en l'ayant avec lui, à son bras, si vous voulez, pour se promener dans la foule. Tout le monde croit qu'ils sont ensemble. Mais Rosanette et Frédéric savent bien qu'ils ne sont pas ensemble. Pas encore. On verra plus tard. Et donc, presque au milieu de la page 261, Messier était là, dans la même attitude que tout à l'heure, et avec un surcroît d'aplomb, il invita Rosanette à dîner pour le soir même. « Impossible, répondit-elle, nous allons ensemble au café anglais. »« Ensemble » signifie bien sûr Frédéric et moi, tous les deux. Frédéric, comme s'il n'eût rien entendu, demeura muet. Et Sisyphe quitta la maréchale d'un air désappointé. Pourquoi Sisyphe est désappointé? Pourquoi Frédéric reste muet? Eh bien parce que, selon les conventions de mondanité, de relations mondaines, au moment où la maréchale signale que l'on dîne ce soir au café anglais, Frédéric devrait avoir la politesse de proposer à Sisyphe de les accompagner. En ne proposant rien, il rejette Sisyphe en disant « Non, c'est un dîner privé ». En même temps, Sisyphe ne sait pas si c'est un dîner pour deux ou pour douze. Mais il n'est pas invité. Donc, Frédéric demeura muet, c'est-à-dire il n'a pas la politesse de lui proposer. Et évidemment, Sisyphe est désappointé, déçu. Et il se retire. En quelque sorte, c'est un premier désagrément entre les deux personnes du côté de Sisyphe cette fois. Voilà, on passe ensuite à la page 266. Donc on saute hein, d'autres événements qui ne sont pas dans la genèse du duel. On est maintenant au café anglais, dans un petit salon privé, où tout le monde, où personne ne peut voir qui est dans ce salon. Donc il faut demander à des serveurs et être introduit, être accompagné, ou bien être invité, bien sûr. Alors, ça commence en bas de la page 265. Il y a Usone à qui on propose de raccompagner les chiens, parce que les chiens de la maréchale sont gênants. Frédéric leur a donné un coup de pied, volontairement ou pas, peut-être volontairement, à la page 264, et ils se sont mis à aboyer, et donc on veut s'en débarrasser. Bon, pourquoi pas? Et c'est Usone à qui on demande de faire ce service. Alors, voyez en bas de la page 265, « Voyons, Usone, déjouez-vous. Oh oui, mon petit, ce serait bien aimable. » Usone s'en alla sans se faire prier. Donc, il ramène les chiens à la maison. Et on tourne la page. « Madame, quelqu'un vous demande. » Comment encore ? Ça, c'est Frédéric, pas content d'être dérangé. « Il faut pourtant que je voie, » dit Rosanette, hypocrite. Il en avait soif, besoin d'elle, hein, évidemment. Cette disparition lui semblait une forfaiture, presque une grossièreté. Donc elle s'absente, elle sort du cabinet pour voir qui la demande. Et Frédéric, pas content. Que voulait-elle donc? N'était-ce pas assez d'avoir outragé Madame Arnoux? Tant pis pour celle-là, du reste. Maintenant, il haïssait toutes les femmes et des pleurs l'étouffaient, car son amour était méconnu et sa concupiscence trompée. Son amour était méconnu, pour Madame Arnoux, bien sûr, et sa concupiscence, hein, sa volonté de simplement de faire l'amour, hein, sexuellement, trompée, puisque Rosanette n'est pas très obéissante, disons. La maréchale rentra et, lui présentant Sisi, « J'ai invité monsieur. J'ai bien fait, n'est-ce pas ?»« Comment donc ? Certainement. » Alors, c'est en quelque sorte la suite de la scène qu'on a vue tout à l'heure, mais cette fois, Sisi est arrivée jusqu'ici. Et Rosanette, disant qu'elle l'a invité, Frédéric ne peut pas s'y opposer. Et donc, il fait semblant d'être d'accord. « Comment donc ? Certainement. » Nous apprendrons plus tard que Rosanette a certainement été prévenue avant que Sisi allait venir, et nous apprendrons aussi que ce dîner ce soir et la suite avec Rosanette pour Sisi était un pari qu'il avait fait avec des amis. Donc le thème du pari qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous ne le savons pas. Le lecteur qui lit pour la première fois ces pages ignore complètement que tout cela a été préparé. C'est ce qu'on appelle un coup monté. Coup monté, plus ou moins ensemble, entre Sisi et Rosanette. Pour l'instant, nous sommes un peu comme Frédéric, d'ailleurs. Nous ne savons pas que c'est un coup monté. Mais Frédéric le comprendra quelques jours plus tard. C'est ce qui déterminera en grande partie, hein, sa mauvaise humeur et son geste de violence. Et alors le dîner ne se passe pas très bien. À la page 267, à la troisième ligne, il est question de convenance, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut boire du vin de Bourgogne tout de suite? Et Frédéric dit que non, ça n'est pas dans les habitudes, dans les convenances. Et Sisi dit que oui. Alors, en haut de la page 267, Rosanette répond « Ah, tu vois » C'est-à-dire, si Sisi le dit, ça veut dire que c'est vrai. Comme si ce que dit Frédéric n'était pas un propos sérieux, comme si Frédéric n'avait pas la légitimité, la connaissance, la culture suffisante pour dire que non, on ne doit pas boire du vin de Bourgogne. Mais Sisi, lui, aristocrate, très riche, il est entièrement légitimé. C'est blessant pour Frédéric. Petite allusion comme ça. Et après ce « Ah, tu vois !» le regard dont elle accompagna cette phrase signifiait « C'est un homme riche, celui-là, écoute-le. » Alors, « C'est un homme riche, celui-là, écoute-le. » Ce ne sont pas des paroles prononcées par Rosanette, mais c'est le sens en dessous, le sens caché de « Ah, tu vois !» Si Sisi le dit, hein, lui, il le sait, mais toi, tu ne le sais pas. Donc c'est un homme riche, celui-là, écoute-le. Ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de comparaison entre les fortunes. La fortune récente de Frédéric est une petite fortune, une très petite fortune, à côté de celle que peut avoir un aristocrate comme Sisi. Donc c'est encore un rapport de force lié évidemment à la fortune, qui blesse beaucoup Frédéric. Et puis, ça continue, hein. Aucune possibilité d'être tranquille pendant ce dîner. La porte s'ouvrait à chaque minute, les garçons glapissaient, c'est-à-dire criaient, etc., etc. Bref, c'est une très très mauvaise soirée pour Frédéric, où il ne peut absolument pas s'occuper personnellement de Rosanette comme il le souhaitait, dans l'intimité, et l'amener à coucher avec lui. Et même, au contraire, il va se trouver en quelque sorte piégé, et c'est lui qui devra partir, c'est lui qui devra laisser partir Rosanette avec Sisi, parce que Sisi mettra sa voiture à la disposition de Rosanette pour rentrer chez elle. Parce que lui, il a une voiture aussi, alors que Frédéric n'en a pas. Donc Frédéric peut payer pour louer une voiture, mais c'est pas la sienne. Eh oui, c'est toute la différence. C'est à la page 268, vous allez voir comme la tension monte, hein, ça commence à chauffer. Vers le milieu de la page, la maréchale décrocha de la patère sa capote, c'est-à-dire elle prend son manteau, hein. Ça veut dire qu'elle veut partir. Frédéric se précipita sur la sonnette en criant de loin au garçon. « Une voiture !»« J'ai la mienne !» dit le vicomte. « Mais monsieur !»« Cependant, monsieur !» Donc, contestation et évidence. Et ils se regardaient dans les prunelles, pâles tous les deux et les mains tremblantes. Ah donc on sent là les deux mâles face à face pour la conquête d'une femelle. Hein, c'est exactement comme dans les cérémonies des animaux qui souhaitent remporter la femelle. Donc pâles tous les deux et les mains tremblantes. On voit très bien l'image. Et voyez que on ne dit rien, il n'y a pas de mots précis. Donc si on utilise un ordinateur pour chercher les mots, séduction, affront, vous voyez, des mots qui nous permettent de qualifier ce qui se passe ici, eh bien on ne trouve rien, parce que ces mots ne sont pas utilisés. Flaubert a le génie, l'intelligence, de nous faire tout comprendre avec des expressions très simples, lorsqu'on a bien suivi le contexte. Donc, elle décroche son manteau, Frédéric se précipite sur la sonnette pour appeler une voiture. « Une voiture, j'ai la mienne. Mais monsieur... » « Cependant, monsieur... » On renouvelle l'offre. « Oui, c'est comme ça, j'ai ma voiture, c'est comme ça. On n'y peut rien. » Enfin, la maréchale prit le bras de Sisi et, en montrant le bohème attablé, « Soignez-le donc, il s'étouffe. Je ne voudrais pas que son dévouement pour mes roquets le fît mourir. » La porte retomba. Donc il s'agit de Hussonnet, qui était revenu d'avoir ramené les chiens et qui mange un peu n'importe comment parce qu'il a faim et il n'est pas très poli, pas présentable. Et Rosanette, en quelque sorte, dit quelque chose d'assez méprisant pour Frédéric en lui disant, bah voilà, occupez-vous de lui, hein, voyez comment il mange. Donc tout ça est très désagréable. Même si Frédéric n'avait rien prévu, ça serait déjà très désagréable, mais en l'occurrence Frédéric avait prévu quelque chose et il est donc tout à fait déçu, désappointé. En quelque sorte, le mot désappointé qui était utilisé le matin pour Sisi se trouve extrêmement amplifié le soir pour Frédéric. Donc il y a un déséquilibre sur ce thème du désappointement qui s'est déplacé d'un personnage à un autre. Page 269, après le milieu de la page, un nouveau paragraphe commence par « Frédéric passa la journée du lendemain à ruminer sa colère et son humiliation. Il se reprochait de n'avoir pas souffleté Sisi. » Donc tout cela reste très présent dans l'esprit de Frédéric, à ruminer sa colère, son humiliation, et il se reprochait de n'avoir pas souffleté Sisi. Alors souffleter, ça veut dire donner une gifle, un soufflet, hein, le verbe souffleter. Alors, comme je disais tout à l'heure à propos du gant, on pouvait, de façon très violente, souffleter quelqu'un avec la main, mais le plus souvent, on utilisait son gant pour ne pas toucher à l'autre. Le simple fait de faire ça suffisait. C'est-à-dire que Frédéric regrette de n'avoir pas donné un soufflet à Sisi, et dans un sens, ce soufflet aurait déjà été la possibilité d'un duel, puisque Sisi, par honneur, aurait dû répondre à ce soufflet en provoquant en duel Frédéric. Mais ça ne s'est pas passé, Frédéric se le reproche. Il se le reproche, ça veut dire aussi qu'il le garde à l'esprit, et il ne le sait pas, mais l'occasion va se représenter, et il ne la laissera pas passer. Alors, cette situation entre Frédéric et Sisi, on voit que c'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Il y a une tension entre les deux qui augmente. Et puis, autour de Frédéric, il y a d'autres problèmes. À la limite, on peut dire s'il n'y avait que Sisi, peut-être que Frédéric se dirait, bon, bah voilà, s'il était heureux par ailleurs, en amour, avec Madame Arnaud ou avec Rosanette, il laisserait l'affaire Sisi, ça n'aurait aucune importance. Mais il y a d'autres problèmes qui s'accumulent les uns après les autres. Par exemple, à la page 270 et 271, c'est Pellerin qui vient pour se faire payer son tableau. Alors ce tableau, c'est en effet, hein, c'est un tableau de la maréchale, hein, très moche, hein, apparemment, pas très beau. Il en sera question encore plusieurs fois. C'est une sorte de comment on dit ? Vous connaissez l'expression MacGuffin ? Un MacGuffin, c'est un mot anglais qui a été introduit par Hitchcock, je crois, en disant que c'est un objet dont on parle et que l'on ne voit jamais. Mais la poursuite de cet objet crée complètement l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Et dans certains livres ou films, il est question de quelque chose que l'on ne voit jamais et qui pourtant provoque complètement cette histoire. Alors Alfred Hitchcock avait nommé ça MacGuffin, un MacGuffin. Alors là, le tableau de Rosanette serait une sorte de MacGuffin dans ce livre. Guffin, vous pouvez l'écrire comme ça. Enfin, c'est pas comme ça se prononce puisqu'il y a deux F. Voilà, vous verrez aussi sur Internet, vous trouverez beaucoup d'exemples de MacGuffin dans les films ou dans les livres. Plus souvent dans les films, d'ailleurs. Alors, ce tableau a été commandé en réalité par Arnoux, mais Arnoux ne peut pas directement, personnellement demander ce tableau puisqu'il est marié. Donc, il a demandé à Frédéric de faire l'intermédiaire. Et c'est donc Frédéric qui a commandé à Pellerin. Et Pellerin vient pour se faire payer son tableau, en disant que Arnoux n'en veut pas, finalement, s'il ne lui plaît pas. Alors, est-ce que Frédéric doit payer ce tableau? C'est très désagréable. Et s'il doit le payer, il doit aussi le garder. On verra que ça posera des problèmes aussi à Frédéric, jusqu'à la fin, ce tableau de Rosanette. Alors, pour l'instant, il ne l'a pas payé, il a renvoyé Pellerin, mais c'est très désagréable, cette histoire. Et puis, à la suite de cela, qu'est-ce qui se passe encore de désagréable? Page 273-274. En bas de la page, Frédéric reçoit une lettre de son huissier qui lui indique que, en gros, si on résume cette histoire avec Arnoux, il a perdu de l'argent. De l'argent prêté à Arnoux, que Arnoux a hypothéqué et qu'il ne peut donc pas rendre. Donc Frédéric perd son argent. Ça aussi, c'est désagréable. Et en même temps, juste avant, il apprend de Hussonnet, c'est au milieu de la page 273, Hussonnet lui adressa une lettre où il narrait gaiement que la maréchale, dès le lendemain des courses, avait congédié Sisy. Bon, ça serait presque une bonne nouvelle. Donc Frédéric en fut heureux, sans chercher pourquoi le bohème lui apprenait cette aventure. Le hasard voulut, encore lui, le hasard, qu'il rencontra Sisy 3 jours après. Le gentilhomme fit bonne contenance et l'invita même à dîner pour le mercredi suivant. Donc on essaye en quelque sorte de renouer hypocritement ou pas hypocritement, on ne sait pas très bien. Enfin, voilà, c'est relancé. Donc c'est un contexte de plusieurs jours, plusieurs semaines, mais le sentiment contre Sisy reste et d'autres événements désagréables arrivent, s'accumulent un peu comme des nuages. Également à la page 274, troisième paragraphe, en remuant ses paperasses sur la table, il rencontra la lettre du sonnet et aperçut le post-scriptum qu'il n'avait point remarqué la première fois. Le bohème demandait 5000 francs, tout juste, pour mettre l'affaire du journal en train. Ah, celui-là m'embête, et il le refusa brutalement dans un billet laconique. Donc, il refuse de donner de l'argent qu'on lui demande. D'un autre côté, il refuse de payer un tableau qui n'était pas normalement pour lui. Enfin, sur tout ce contexte, toute cette situation, arrive le dîner chez Sisy, qui est donc l'objet de notre travail aujourd'hui. Lorsqu'on en connaît bien la genèse, ça peut aller beaucoup plus vite. Alors pour ce dîner, Sisy a invité des gens très sérieux de son entourage, son parrain, son professeur et des amis, eux aussi aristocrates ou très bien placés. On pourrait d'ailleurs comparer ce dîner chez Sisy avec ce qu'on a vu la semaine dernière, le dîner chez Frédéric, et comment les personnages sont présentés. Ici, tous les personnages nous sont présentés dès le début. Comme si, d'ailleurs, Frédéric entrait et, lorsqu'il entre, on lui présente, l'une après l'autre, les personnes qui sont là. Donc, assez, comme dans la réalité, assez mimétique. Alors, marquis, alors, il va y avoir des marquis, des vicomtes, des barons. C'est une sorte de lieu très aristocratique où Frédéric n'est pas spécialement à l'aise. Et puis, Sisi, voulant montrer sa richesse et en quelque sorte la supériorité à laquelle sa richesse lui permet de prétendre, il va organiser quelque chose de tout à fait somptueux, riche, sans doute très bon du point de vue culinaire. Nous avons une énumération de plats et en même temps le décor, la décoration, la table. Sur la table, il y a, donc c'est en bas de la page 274, le dernier paragraphe. Sisi l'avait choisi par pompe, tout exprès. Donc une grande salle. La pompe, c'est une sorte d'emphase, hein, d'emphase excès dans l'apparence. Un surtout de vermeil. Alors un surtout, c'était une sorte de grand plateau. Et puis le vermeil ici, ça veut dire de l'argent ou du cuivre doré, avec la couleur qui devient un peu rouge, un peu comme du cuivre devient rouge aussi. Ça c'est le vermeil, c'est-à-dire des plats très riches, très anciens, chargé de fleurs, de fruits, vieille mode française, beaucoup de choses à manger et à boire. Page 275. 5 verres de hauteurs différentes étaient alignés devant chaque assiette, 5 verres, avec des choses dont on ne savait pas l'usage. On, c'est Frédéric. À mon avis, les autres connaissent très bien l'usage de ces choses. Donc on a un discours indirect libre, un peu étonné de Frédéric. Oh, à quoi ça sert ? 1000 ustensiles de bouche ingénieux. 1000, c'est tout à fait exagéré, hein, bien sûr. Il doit y en avoir 2 ou 3. Mais ça semble beaucoup. C'est une forme de mépris aussi de la part de Frédéric que d'exagérer le luxe qu'il trouve. Il y avait, rien que pour le premier service, une hure d'esturgeon. Alors une hure, c'est la tête. On utilise aussi pour le sanglier. Donc on présente un plat énorme dans lequel il y a bien sûr le poisson préparé, l'esturgeon, et avec la tête. Et sans doute la tête ouverte avec des choses dedans, des décorations, etc. On m'a dit qu'on faisait ça aussi parfois avec des sushis, des sashimi, pardon. On présente le poisson comme ça avec la tête qui bouge encore. La hure. Vous pourrez utiliser le mot la prochaine fois que ça se présentera. Un jambon d'York au toquet, des grives au gratin, des cailles rôties, un vol au vent béchamel. Alors un vol au vent, c'est une sorte de pâté chaud. Vous connaissez peut-être mieux le nom de boucher à la reine. Ça vous dit quelque chose, boucher à la reine ? Donc c'est une sorte de feuilleté comme ça, creux, qu'on a préparé à l'avance. Et dans le feuilleté, on met une crème mélangée avec des fruits de mer ou d'autres choses. Et il y a un petit chapeau comme ça, et on met ça au four. Et donc on sert comme ça. Donc, on le connaît mieux sous le nom de boucher à la reine. Aujourd'hui, on trouve ça chez les traiteurs. Donc bon, voilà, des choses tout à fait superbes et sans doute très bonnes. Ça donne faim. Hein. Un lustre et des girandoles. Un lustre, donc, c'est attaché au plafond. Et des girandoles, ce sont des chandeliers qui sont posés sur la table, mais eux-mêmes assez grands et avec des morceaux de cristal qui pendent. Donc là aussi encore quelque chose de très riche. Alors en même temps pour Flaubert c'est une sorte d'amusement parce que Flaubert utilise beaucoup de mots riches, rares que nous sommes obligés de chercher dans le dictionnaire, moi comme vous, hein, pour préparer. Donc c'est aussi une marque de richesse littéraire, exactement comme Sisi met de la richesse de sa fortune. Et puis Flaubert s'amuse parce que c'est dans ce cadre que Frédéric va faire du scandale en lançant son assiette. Donc si on lance son assiette dans un endroit où rien n'a de valeur, c'est pas très amusant. Mais si on lance son assiette à travers des choses luxueuses que l'on casse et qui coûtent cher, ça fait très plaisir. Pour Frédéric, au moins, en tout cas. Et je crois que Flaubert s'est un peu amusé aussi avec ça. Notre amphitryon, ma parole, a fait de véritables folies, c'est trop beau. Alors, amphitryon, encore une antonomase, c'est-à-dire un nom propre utilisé comme nom commun. Amphitryon, c'est celui qui invite les autres à sa table, et le nom propre était dans, enfin, le plus connu, disons, dans la pièce de Molière, Amphitryon, et c'est celui qui paye, ou celui qui traite, ou celui qui invite les autres. Et bien sûr, avant Molière, il y avait un amphitryon qui était un chef, un roi, disons, de la ville de Thèbes, Thèbes en Grèce, et qui se trouve être le père humain de Héraclès. Héraclès, ça va pour tout le monde? Alors on trouverait ça dans l'Iliade, hein, où il est question d'Amphitryon. Mais évidemment, avant d'avoir la pièce de Molière, on n'utilisait pas du tout ce mot comme un nom commun pour celui qui invite. Donc on peut dire que ça vient vraiment de Molière. Alors ensuite, il est question un peu des discussions, des sujets de conversation. Il y a des choses amusantes, comme les sujets agricoles du parrain de Sisyphe. Alors le parrain, c'est celui qui remplace le père, ou qui seconde le père, le vrai père. Mais le parrain avait autrefois une mission plus importante. Le parrain devait faire l'éducation religieuse en particulier, s'occuper de l'éducation religieuse de son filleul, ce qui est peut-être le cas ici. Et puis, une sorte de jeu d'esprit de Flaubert, lorsque Sisyphe parle d'une pièce de théâtre au Palais Royal, qui s'appelle Père et Portier, donc il parle de culture, et le parrain lui répond qu'il n'a pas le temps, parce que lui, il s'occupe d'agriculture. Donc culture et agriculture. Je pense que Flaubert n'a pas eu besoin de souligner cette sorte de jeu de mots. En effet, Flaubert n'aime pas beaucoup certains jeux de mots qui sont trop faciles, trop évidents. Donc on peut le mettre en scène, on peut l'installer dans le texte, mais on n'a pas besoin de faire le jeu de mots. Ce jeu de mots qu'il appellera tout à l'heure par son vrai nom, qui est Calembour. Qu'est-ce qu'il y a, Calembour ? Il est quelque part, il est bientôt, hein, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Ou alors il était avant déjà ? Calembour, c'était... Non, c'était pas avant. C'est à la page 277. Donc on le verra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc 275 toujours. En bas de la page, on sort du thème agricole et Sisyphe, s'apercevant que Monsieur de Forchambault refusait du vin, buvez donc sa prelote, nom de Dieu, hein, sa prelote, c'est comme ça. Vous n'êtes pas crâne pour votre dernier repas de garçon. Alors crâne, ça veut dire fier, courageux, téméraire pour faire quelque chose. Crâne, un adjectif qui est encore utilisé aujourd'hui dans le verbe crâner. Quelqu'un qui crâne, c'est quelqu'un qui se montre comme ça, un peu prétentieux dans la rue, parce qu'il a bien réussi, parce que, etc. Crâner. Et donc, pour votre dernier repas de garçon, c'est-à-dire qu'il va se marier. Un dernier repas de garçon, ça veut dire dernier repas avant le mariage. Alors, dernier repas ça veut dire dernier repas avec des copains. Un peu, le mariage n'est pas pour demain, mais c'est la dernière sortie en tant que garçon qui pourrait s'amuser avec des filles, par exemple. Une fois qu'il sera marié, ce sera différent pour Forchambault. À ce mot, tous s'inclinèrent, on le congratulait. Et la jeune personne, dit le précepteur, est charmante, j'en suis sûr. Donc c'est un peu, c'est un peu comme dans la symphonie hein, musicale. Hein. Vous avez un premier passage du thème. Le thème de la femme apparaît hein, sous forme de quelques petites notes comme ça. Et puis, on passe à autre chose. Mais le thème va revenir. Alors, on tourne la page. Parbleu, s'écria Sisy, n'importe, il a tort, c'est si bête le mariage. On passe au thème du mariage lui-même. Mais Monsieur des Aulnay est triste parce qu'il a perdu sa femme. Donc, on ne reste pas sur ce thème. Et Forchambault dit, bah, vous aussi, vous y viendrez. Hein, c'est-à-dire, vous vous marierez, vous aussi. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Hein. Sisy protesta. Mais on sait dans la troisième partie que Sisy va se marier, devenir très catholique, avoir 8 enfants, comme dans les bonnes familles catholiques. Il aimait mieux se divertir, être régence. Alors régence, c'est une allusion à une période de la France qui est après la mort de Louis XIV, une période où le roi le neveu Philippe II d'Orléans prend la place du roi, mais pas légitime, donc ça s'appelle la régence en attendant. Et donc entre 1715 et 1723, dans une période assez brève, petite dizaine d'années, pendant laquelle on dit que les mœurs sont devenues très très libérales, très libertines. Et en même temps, une époque d'art baroque. Hein, donc, beaucoup de possibilités de se cacher dans des coins avec toutes sortes de personnes. Puisque le baroque, c'est aussi l'art des coins cachés, en hauteur ou à l'horizontale. Donc voilà, être régence. Toujours des allusions à l'histoire en même temps. Hein. Il voulait apprendre la savate. Alors la savate, c'est une sorte de boxe avec les mains et les pieds qui deviendra par la suite la boxe française et qui était à cette époque un héritage de l'escrime, donc de l'épée, du sabre, etc. On utilisait le même vocabulaire, les mêmes attitudes, les mêmes codes. Donc il veut faire des choses comme ça, visiter les tapis francs de la cité. Alors les tapis francs, je pense que ça ne va pas être dans votre dictionnaire. C'est un mot d'époque pour désigner les endroits, les cafés, les cabarets où se réunissent les brigands, les voleurs, les gens de la mafia, comme on pourrait dire aujourd'hui. Hein. Donc on a ça bien popularisé hein, par la mafia new-yorkaise avec d'excellents films que vous connaissez sans doute. Et ces gens ont des restaurants, des cafés. Hein. Et donc dans ces endroits-là, il aimerait bien aller. Et donc, comme le prince Rodolphe des Mystères de Paris, tira de sa poche un brûle-gueule, etc. Donc, troisième allusion à des choses un peu libertines ou délurées ou illégales, se comporter comme le prince Rodolphe des Mystères de Paris. Alors, les Mystères de Paris, c'est un célèbre roman de Eugène Sue, que vous connaissez sans doute, au moins de nom. Et c'est vrai que dans l'histoire littéraire aujourd'hui, on a beaucoup valorisé un certain nombre d'auteurs de romans de l'époque. Je citais tout à l'heure Alexandre Dumas, qui est considéré comme un grand auteur. Et Eugène Sue, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand même, La publication des Mystères de Paris en feuilleton pendant près d'un an, en 1842-43, donc c'est exactement l'époque où on se trouve, hein, a été très 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 populaire dans le journal des débats. Donc régulièrement, il y avait un épisode, hein, c'est l'époque de la littérature par épisode dans les journaux, et d'une très grande popularité, au point que des gens qui ne savaient pas lire et écrire demandaient à d'autres, dans la rue ou dans des cafés, de leur lire les épisodes. Donc il y avait en quelque sorte des séances de lecture publique des Mystères de Paris, et toutes sortes de populations s'intéressaient aux aventures de Rodolphe. Rodolphe, qui était en réalité un prince, donc là, prince Rodolphe, c'est en quelque sorte révélé l'identité de Rodolphe, mais qui n'était pas public. C'est un homme d'une très grande distinction, parfaite, une sorte de modèle, hein, pour Sisy, dans le dandysme, bien sûr, mais également, avant Arsène Lupin, hein, tout le monde connaît Arsène Lupin, une sorte d'ancêtre d'Arsène Lupin par le chic et en même temps la capacité d'être un voleur et de se transformer en différents personnages, aussi bien un aristocrate qu'un ouvrier. Il connaît, il comprend les codes des brigands entre eux, ce qu'on appelle la pègre, hein, on pourrait dire la mafia, la pègre. Il est capable de parler argot, donc la langue très vulgaire de certains petits groupes. Et bien sûr, il est très fort, il peut se battre à toutes sortes d'armes, etc. Donc, bon, l'ancêtre de Arsène Lupin. Et en même temps, héritier de Robin des Bois, Robin Hood. Héritier de Robin Hood dans le sens où il est au service du peuple. Et qu'il va donc voler des gens puissants pour distribuer au petit peuple. C'est pour ça aussi que c'était très populaire. Donc les Mystères de Paris. Alors, Sisy, hein, en Prince Rodolphe, c'est un peu ridicule, mais c'est son rêve. Et bien sûr, il boit trop. Alors, un peu plus bas dans la page 276, on revient à l'intérieur de la tête de Frédéric. Donc on va se concentrer maintenant, se focaliser sur le thème principal. Frédéric était venu plein d'humeur contre Sisy. Sa sottise l'avait désarmé. Alors le point virgule indique bien, comme je disais l'autre jour, on n'a pas besoin de mots chez Flaubert pour marquer la chute de sentiments. Il est venu plein d'humeur contre Sisy, sa sottise l'avait désarmé. Il n'y a pas d'explication. Mais ça montre bien la violence du résultat. Mais ses gestes, sa figure, toute sa personne, lui rappelant le dîner du café anglais, l'agaçaient de plus en plus. Là, le plus en plus marque bien la progression, hein, le crescendo, à l'intérieur de Frédéric. Pour les autres, il ne se passe rien de particulier. Un autre individu arrive, qu'on appelle le baron, un gaillard de 30 ans, quelque chose de rude, souple. C'était l'idéal du vicomte. L'idéal, donc, quelqu'un qui était très bien habillé et sur lequel l'autre prenait modèle. Et pour ce modèle, on arrive justement au calembour, en haut de la page 277, car il dit, comme on passait un coq de bruyère, on passait un coq de bruyère, c'est-à-dire un plat à manger, sur lequel il y avait un coq de bruyère. Coq de bruyère, une sorte de coq assez gros que l'on peut cuisiner. Et à ce moment-là, donc Sisy voit son ami qui arrive, et le coq sur le plat, et il dit quelque chose qu'il considère comme de l'esprit. Un mot d'esprit, ce qu'on appelle un mot d'esprit. Voilà le meilleur des caractères de la bruyère. bien sûr allusion à l'écrivain La Bruyère et à son livre intitulé Les caractères, qui fait des portraits de types de personnages, de type français, disons, de la société française. Alors, est-ce que le mot est bon ou pas bon? Moi, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça. C'est un bon mot. C'est amusant. Simplement, pour Frédéric, ça tombe à un très mauvais moment. Donc, il ne peut pas s'amuser de ce mot. Et on le considère comme un mauvais calembour, ou en tout cas comme un calembour. À propos du calembour, il faut dire quand même que même des auteurs qui ont beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit n'apprécient pas beaucoup les calembours. Alors qu'est-ce que c'est un calembour? D'abord, c'est un jeu d'esprit fondé sur les mots, sur le double sens des mots ou sur une équivoque entre des mots. Donc ici, équivoque, hein, equivocus, hein, plusieurs voix, plusieurs sens entre des mots. Caractère, c'est une personne, et en même temps, c'est un titre de livre. La Bruyère, c'est l'auteur, et en même temps, c'est le coq qui se trouve sur le plat. Donc il y a bien équivoque et quelque chose qui, à mon avis, n'est pas mauvais en soi. Mais beaucoup d'auteurs ne l'aiment pas. Et Flaubert, en particulier, a dit qu'il n'aimait pas spécialement les calembours. C'est Hugo, dans Victor Hugo dans Les Misérables, dans le tome 1 des Misérables, qui est publié donc en 62. Alors je ne sais pas si Flaubert le connaît à ce moment-là, mais on considère que c'est un mauvais jeu de mots. Et Victor Hugo écrit: le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. La fiente de l'esprit qui vole. Alors la fiente, c'est le caca de l'oiseau. Donc vous avez des oiseaux qui laissent tomber quelque chose. Parfois sur les passants, c'est très désagréable lorsqu'on reçoit ça, surtout venant d'un pigeon, c'est très sale. Donc c'est la fiente. Donc Victor Hugo écrit « Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole ». Donc on imagine l'esprit c'est l'intelligence, hein, des paroles, l'esprit vole comme ça, c'est très léger, c'est très, très beau, et en même temps, de temps en temps, il y a quelque chose qui tombe comme ça, c'est le calembour. Je crois que ça résume bien, hein. Hugo a très bien frappé la chose. Et puis, là, d'un seul coup, par hasard, dans la conversation, des indices vont faire comprendre à Frédéric qu'il a réellement été joué, manipulé, moqué lors de la précédente soirée, journée, disons, avec Rosanette. Un petit peu plus bas, donc dans cette page 277, Sisyphe voulait se faire admettre à un club très chic, très sélect, mais il est encore trop jeune. Le baron, ayant sans doute pitié de son amour-propre, « Ah, j'oubliais! « Mille félicitations pour votre pari, mon cher. »« Quel pari ?»« Celui que vous avez fait aux courses, d'aller le soir même chez cette dame. » Frédéric éprouva comme la sensation d'un coup de fouet. Il fut calmé tout de suite par la figure décontenancée de Sisyphe. En effet, la maréchale, dès le lendemain, en était au regret, quand Arnoux, son premier amant, son homme, s'était présenté ce jour-là même. Tous deux avaient fait comprendre au vicomte qu'il gênait et on l'avait flanqué dehors, avec peu de cérémonie. Il eut l'air de ne pas entendre. Le baron ajouta « Que devient-elle, cette brave Rose? A-t-elle toujours d'aussi jolies jambes ?» Prouvant par ce mot qu'il la connaissait intimement. « Lui aussi, j'ajoute. » Frédéric fut contrarié de la découverte. « Il n'y a pas de quoi rougir, reprit le baron. C'est une bonne affaire. » Sisy claqua de la langue. « Peu, pas si bonne. Ah, mon Dieu, oui. D'abord, moi, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Et puis, on en récolte de pareil tant qu'on veut, car enfin, elle est à vendre. » « Pas pour tout le monde, reprit aigrement Frédéric. « Il se croit différent des autres, répliqua Sisy. Quelle farce !» Et un rire parcourut la table. Frédéric sentait les battements de son cœur l'étouffer. Il avala deux verres d'eau coup sur coup. Mais le baron avait gardé bon souvenir de Rosanette. « Est-ce qu'elle est toujours avec un certain Arnoux ?»« Je n'en sais rien, dit Sisy. Je ne connais pas ce monsieur. » Il avança néanmoins que c'était une manière d'escroc. « Un moment !» s'écria Frédéric. Cependant, la chose est certaine. Il a même eu un procès. « Ce n'est pas vrai !» Frédéric se mit à défendre Arnoux. Il garantissait sa probité, finissait par y croire, inventait des chiffres, des preuves. Le vicomte, plein de rancune, et qui était gris d'ailleurs, s'entêta dans ses assertions. Si bien que Frédéric lui dit gravement « Est-ce pour m'offenser, monsieur ?» Et il le regardait avec des prunelles ardentes comme son cigare. « Oh, pas du tout. Je vous accorde même qu'il a quelque chose de très bien, sa femme. Vous la connaissez ? Parbleu, Sophie Arnoux, tout le monde connaît ça ? Vous dites ?» Sisy, qui s'était levée, répéta en balbutiant « Tout le monde connaît ça !» « Taisez-vous, ce ne sont pas de celles que vous fréquentez. »« Je m'en flatte. » Frédéric lui lança son assiette au visage. Elle passa comme un éclair par-dessus la table, renversa deux bouteilles, démolit un compotier et, se brisant contre le surtout en trois morceaux, frappa le ventre du vicomte. Tous se levèrent pour le retenir. Il se débattait en criant, pris d'une sorte de frénésie. Monsieur Désaulnay répétait « Calmez-vous, voyons, cher enfant, mais c'est épouvantable, vociférait le précepteur, etc., etc. » Bon, je crois que la scène est très rapide, très bien écrite, très spirituelle aussi, et on voit bien comment les mots se sont accumulés et comment Frédéric a reçu plusieurs coups l'un après l'autre. D'abord, le pari, donc il a été trompé, Rosanette, plus ou moins insultée, traitée de prostituée, et enfin, Madame Arnoux, comparée avec une actrice, Sophie Arnoux, vous avez une petite note, qui était cantatrice au siècle précédent. Je n'ai pas d'informations spéciales sur cette Sophie Arnoux, mais on peut imaginer que peut-être elle avait des mœurs assez libres, assez libertines, et qu'au XIXe siècle, assez bourgeois, cateau, moral, pour les aristocrates, c'est pas correct. Donc tout ça s'est accumulé et Frédéric a lancé son assiette, comme vous avez vu, en cassant un certain nombre de choses, sans doute fort coûteuses. Alors, au milieu de la page 279, ce qu'il y avait de certain, c'était la brutalité inqualifiable de Frédéric. Donc il y a vraiment une offense, une violence brutale contre des paroles. Il y a une différence entre parole et un geste. Sisy, selon son tempérament, se met à pleurer, il a une faiblesse nerveuse, et au bout d'un moment, le baron dit « Le vicomte, monsieur, enverra demain chez vous ses témoins. » Alors ça veut dire précisément que Sisy provoque en duel Frédéric pour l'offense qu'il lui a faite. Et donc, Sisy souhaite défendre son honneur qui a été sali, insulté. Alors ici, on renvoie directement, et pour tous les lecteurs de Flaubert à l'époque, c'était complètement évident, à la tradition du duel. Et le duel qui a été pendant une certaine période tout à fait bien vu, y compris des très hautes autorités politiques, au moins jusqu'au, disons, 15e, 16e siècle. par la suite, les duels n'ont plus été des duels qu'on appelait alors des duels judiciaires, c'est-à-dire pour résoudre une affaire de justice. Quand il n'y avait pas de justice, entre deux personnalités nobles, on proposait un duel. Mais, disons, l'histoire change, particulièrement avec Richelieu. Richelieu va publier un édit, donc qui a valeur de loi, et qui interdit le duel d'honneur sous peine de mort. Parce que, entre-temps, le duel n'était plus politique, il était devenu duel d'honneur. On défend son honneur personnel. Et ça faisait des centaines et des milliers de morts, qui étaient donc des forces perdues pour le pays, notamment en cas de guerre. Et Richelieu se fout complètement de la morale, je crois, en publiant cet édit, mais il a besoin de ses forces militaires. Si les militaires commencent à tous s'entretuer en duel, comment on va faire le jour où le pays aura un vrai ennemi ? Bon, Richelieu en avait besoin. Donc, c'était en 1626. En 1626, cet édit, cette loi de Richelieu, qui punissait de la peine de mort ceux qui auraient seraient combattus en duel. Pour donner l'exemple aux autres, évidemment, et les empêcher de le faire. Et néanmoins, ça a continué. Alors, on se cachait un peu plus, mais ça a continué. Et justement, j'ai trouvé dans la page Wikipédia, alors je ne sais pas d'où vient l'information, faudrait se méfier un peu, mais bon, pourquoi pas. Entre 1826 et 1834, il y eut plus de 200 morts par duel. Donc 26-34, ça fait moins de 10 ans, 200 morts, donc ça fait quand même pas mal de morts chaque année. Ça veut dire donc que tous les lecteurs connaissent bien à la fois le duel, comment ça arrive, pourquoi ça arrive, tout à fait justifié, et en même temps ils connaissent les codes. Alors on a besoin de témoins, on a besoin de choisir une arme, de décider d'un lieu et d'une heure, et les témoins font en quelque sorte les présentations, la cérémonie, et en même temps, en général, il y a aussi un médecin qui peut être là pour assister. Parce que le but n'est pas toujours de mourir. Il s'agit simplement de laver son honneur, comme on dit. Si l'autre est blessé et qu'il estime que ça suffit, donc il se déshonore en quelque sorte, c'est fini. Si celui qui est blessé estime que ça ne suffit pas, ils peuvent continuer et alors il y aura un mort, qui n'est peut-être pas celui qui est blessé d'ailleurs, peut-être l'autre aussi. Il y a des duels très beaux au cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple le film Barry Lyndon. Dans le film Barry Lyndon, il y a un très beau duel, très bien filmé, comme ça au pistolet. Alors pour le pistolet, on se mettait de travers, ça, pour être le moins épais possible. Mais on recevait quand même la balle, comme ça. Très très beau. Il y en a beaucoup dans les livres et dans les films. Donc voilà, témoin, votre heure, etc. Et puis alors, à partir de maintenant, et avant que le duel ait lieu, on va avoir une alternance de passages concernant Sisy et concernant Frédéric pour voir un peu comment ça se prépare chez l'un et chez l'autre. Alors, Flaubert rentre à l'intérieur pour voir comment ils sont, d'un côté ou de l'autre. Celui-ci se prépare plutôt bien, Frédéric, assez calme. Je crois que tout ce qui s'est accumulé pour Frédéric fait qu'il est tout à fait légitime pour lui d'avoir un duel, et en même temps, presque une sorte de valorisation. Et je crois que le mot est utilisé quelque part, l'idée de ce duel l'annoblissait, le rendait comme noble, parce que évidemment, un type comme Frédéric, du peuple ou d'une petite bourgeoisie, n'avait aucune raison de se battre en duel. C'était une affaire d'aristocrate. Donc le fait de se battre en duel, ah, ça lui donne une position. Et puis évidemment, s'il survit au duel, ça sera la gloire, en quelque sorte. Très bien. Alors il a besoin de témoins, il va les chercher. Il commence par Rejimbard, à la page 280. Le citoyen Rejimbard, qui devrait être en principe contre les duels, mais en même temps il a un côté militaire, Rejimbard, il accepte. Il accepte et même, on peut dire que il en fait un peu trop, dans le sens classique du duel, en insistant sur l'arme, le protocole, etc. Il veut lui apprendre à tirer l'épée, à se battre à l'épée, en bas de la page 280. Et au milieu de la page 280, au moment où Rejimbard accepte, hein, oui, volontiers, et un sourire homicide le dérida en apprenant que l'adversaire était noble. C'est-à-dire, Rejimbard s'associe au duel de Frédéric parce que l'adversaire est noble. Donc, pour un républicain, c'est une partie de la guerre ou une partie de la révolution que de se battre en duel contre un noble. Et donc, un sourire homicide le dérida. Le dérida, ça veut dire il sourit, il change d'attitude, il devient souriant. Hein, le verbe dérider est souvent utilisé au sens de sourire. Et ce sourire est qualifié de sourire homicide. Alors voilà une très belle figure de style. Ce n'est pas le sourire qui est homicide. L'homicide, c'est l'action de tuer quelqu'un. Donc c'est l'action qui est homicide, c'est le duel. Et on va mettre cet adjectif de l'action sur le sourire. Alors cette figure s'appelle hypallage. Elle est parfois difficile à repérer et en général on la trouve très, très jolie, très riche d'un point de vue littéraire. Hypallage avec un Y. Voilà. Et donc il consiste à associer ensemble deux mots alors que l'association devrait passer par un troisième. Donc, dans notre cas, c'est le sourire à la pensée de l'acte homicide. Et alors, homicide est bien un adjectif pour l'acte qui est le duel. Et à la pensée de ce duel, il a un sourire. Et donc, c'est comme si le sourire lui-même était homicide, au sens où le sourire pouvait tuer, ce qui évidemment n'est pas le cas. Vous connaissez peut-être l'hypallage très célèbre, c'est ce billet coupable. Ce billet, c'est un petit mot sur lequel on a écrit quelque chose, mais si on découvre ce billet, on voit bien qu'une personne est coupable de quelque chose, d'un crime ou d'autre chose. Donc le billet n'est pas coupable, mais il désigne le coupable. Donc on a un troisième terme qui est absent au moment de l'hypallage. Voilà donc le sourire homicide. Alors après Rejimbard, ce sera beaucoup plus simple. On va chercher Dussardier, qui n'a pas de comportement particulier comme Rejimbard, à la page 281. Et puis, la séance, en quelque sorte, commence. Lorsque les témoins arrivent, il s'agit pas encore du duel, il s'agit de déterminer précisément si le duel aura lieu. Une espèce de séance de rattrapage pour l'offenseur qui peut demander pardon. Si l'offenseur demande pardon, l'offensé retire son duel. Mais si l'offenseur ne demande pas pardon, eh bien, voilà, c'est l'offensé qui décide. Mais alors, on n'est pas d'accord des deux côtés, avec les témoins de chaque côté, pour savoir qui doit décider de l'arme et du lieu. C'est-à-dire, en fait, qui est l'offenseur, qui est l'offensé. Parce que Frédéric a lancé son assiette, mais Frédéric estime que c'est lui qui est offensé parce que on a dit devant lui des propos qui offensaient quelqu'un d'autre. Arnoux, Madame Arnoux et Rosanette. Pour Frédéric, tout est un peu mélangé dans ce cas-là. Donc on a offensé trois personnes qui lui sont chères et il les défend. C'est leur honneur qu'il défend. Alors que Sisi, lui, il a été violenté, il a reçu une assiette et il s'estime offensé. Donc on ne sait pas qui est l'offensé. Alors, je résume, ils vont écrire un procès verbal qui raconte un peu la situation et le montrer à des militaires. Alors ils vont se déplacer vers une caserne, d'abord vers un café pour écrire, ensuite vers une caserne pour demander à des militaires, et là, les militaires sont formels, c'est Sisi qui doit choisir les armes. Alors il choisit l'épée. Page 282, on a nommé M. H, M. K, pour, etc. Bon. Du côté de Frédéric, il est à peu près prêt, lui aussi, donc page 282-83. Frédéric a quand même une image qui revient et qui est intéressante parce qu'on l'avait oublié. Le père de Frédéric est mort de la même façon en duel. C'est au milieu de la page 283. Et donc il revoit, enfin pas il revoit, il imagine sa mère étant encore habillée en noir, perdant son fils après avoir perdu son mari. C'est un petit peu désagréable, mais bon, il faut quand même défendre son honneur et son courage revient. Et c'est à la fin de ce paragraphe que vous avez l'idée de se battre pour une femme, le grandissait à ses yeux, la noblissait. Voilà. Alors, le duel lui-même va tourner court. On y va, on se prépare, c'est page 284-285. La nuit, est-ce qu'on rêve, etc. On s'aperçoit qu'on n'a pas pris de médecin, donc on va voir. Et on arrive à la porte Maillot, en bas de la page 285. Dernière ligne de cette page, eh bien, et cette venette, qu'en fait-on ? Alors cette venette, je pense que ça vient du verbe venir, et c'est le mal de ventre qui vous oblige à aller aux toilettes quand vous avez très peur. Et donc c'est un synonyme de diarrhée, de colique, etc. Cette venette, qu'en fait-on ? Donc ça désigne la peur. Hein, est-ce que vous avez peur ? Bon, si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, je connais ça, la crainte est naturelle à l'homme. Puis à voix basse, ne fumez plus, ça amollit. Donc on se prépare. On cherche un emplacement dans les bois, on trouve un endroit à peu près correct, et on arrive en bas de la page 286 à l'ouverture de la boîte de Reginbard qui contient quatre épées charmantes. On en prend une chacun et Reginbard en prend une aussi, ça fait trois, pour séparer les combattants en cas de besoin. On discute encore un peu à la page 287 et puis vers le milieu de la page, allez, en garde, allons. Sisi devint effroyablement pâle, sa lame tremblait par le bout comme une cravache. Sa tête se renversait, ses bras s'écartèrent, il tomba sur le dos, évanoui. Joseph le releva, et tout en lui poussant sous les narines un flacon, il le secouait fortement. Le vicomte rouvrit les yeux, puis tout à coup, bondit comme un furieux sur son épée. Frédéric avait gardé la sienne, et il l'attendait, l'œil fixe, la main haute. « Arrêtez, arrêtez !» cria une voix qui venait de la route, en même temps que le bruit d'un cheval au galop, et la capote d'un cabriolet cassait les branches. Un homme penché en dehors agitait un mouchoir et criait toujours « Arrêtez, arrêtez !» Monsieur de Commun, croyant à une intervention de la police, leva sa canne. « Finissez donc, le vicomte saigne !»« Moi ?» dit Sisi. En effet, il s'était, dans sa chute, écorché le pouce de la main gauche. « Mais c'est en tombant !» ajouta le citoyen. Le baron fait mine de ne pas entendre. Arnoux avait sauté du cabriolet. « J'arrive trop tard. Non, Dieu soit loué !» Il tenait Frédéric à plein bras, le palpait, lui couvrait le visage de baisers. « Je sais le motif. Vous avez voulu défendre votre vieille amie, etc. etc. » Bon, voilà la fin du duel. Finalement, il n'y a pas de duel, ou presque pas. Sisyphe est évanoui, il s'est blessé en tombant. On considère que ce sang est... enfin, c'est ridicule. Donc je crois que Flaubert s'est bien amusé à faire du rocambolesque, hein, à faire du Dumas dans un sens. Et puis, hop, tout ça est parti, ridiculisé, hein, rendu bête par la situation. Mais au passage, nous avons appris beaucoup de choses. Alors la semaine prochaine, nous nous interrogerons sur la fonction de ce duel. À quoi sert-il dans l'ensemble du roman? Est-ce que c'est fini parce qu'il y a eu un duel? Ou bien est-ce que c'est une partie, une étape de quelque chose? Et on verra qu'en effet, ça sert à quelque chose d'une autre façon. Merci. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, excusez-moi, les pages 305-310. Et 332-49. Voilà, en fait, c'est toute la préparation du rendez-vous avec Madame Arnoux, qui est un peu comme le duel, hein, quelque chose qui se prépare longuement et qui finit par ne pas avoir lieu. À la semaine prochaine.